Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Direction d'abord les États-Unis.
Oui, c'est une photo officielle, comme il en existe tant, en l'occurrence celle de la nouvelle promotion de printemps des stagiaires de la Maison-Blanche, réunis dans la plus grande pièce de la résidence du président des États-Unis, sous le regard bienveillant à la fois de George et Martha Washington. Tous posent avec leur nouveau patron, Donald Trump. Alors, est-ce là le nouveau visage que l'Amérique entend présenter au monde? Quoi qu'il en soit, ce qui frappe à première vue, note le site de la chaîne CNN, ce n'est pas tant de constater la fierté, après tout compréhensible, qui se lit sur les visages de ces quelques privilégiés, mais plutôt d'assister là à un spectacle ininterrompu d'homogénéité raciale. Étonnamment, sur ces 91 étudiants, tous, sauf deux, sont blancs. Et le journaliste aussitôt de poser la question, comment donc expliquer cette blancheur éclatante? Est-elle le fruit d'une sélection volontaire de la part de l'administration Trump ou bien la conséquence d'une forme d'auto-sélection, les candidats de couleur choisissant eux-mêmes de ne pas postuler pour travailler au service de cette Maison-Blanche? Seule certitude, on n'aurait pas pu imaginer une photo en plus parfaite harmonie avec la politique défendue par le président Donald Trump, qu'il s'agisse de ses efforts pour garder les immigrants hors de l'Amérique ou de la manière injurieuse qu'il a eu de qualifier les pays africains de pays de merde. Et si l'on se souvient par ailleurs du selfie non moins controversé publié par le président de la Chambre, Paul Ryan, lors de la convention du Parti Républicain, eh bien on se dit que cette nouvelle photo en dit long sur la propagande à la fois verbale et visuelle teintée de racisme diffusée aujourd'hui par le gouvernement. Et pourtant, précise toujours l'article, cette photo est absurde, ou plutôt elle relève d'un pur fantasme. Pourquoi? Parce que selon le dernier recensement datant de 2015, un Américain sur trois aujourd'hui n'est pas blanc. D'ici 2035, les blancs devraient même être minoritaires.
Direction à présent l'Afrique du Sud, où l'on a appris hier la disparition de l'héroïne de la lutte contre l'apartheid, Winnie Mandela.
Oui, dans l'ombre du point levé de son mari, écrit The Mail and Guardian, Winnie Mandela, la mère de la nation, avait réussi à lever son pays. À bien des égards, c'est cette image de femme intrépide face à un appareil d'État brutal qui marquera à jamais l'histoire donc de la lutte contre l'oppression. Avec ou sans Nelson, Winnie avait réussi à construire son propre rôle en tant que militante de la cause noire, rappelle à son tour ce matin le quotidien de Soweto. Et pourtant, même si elle a toujours eu le soutien du peuple, Winnie Mandela demeure un personnage énigmatique, nuance The Daily Maverick. Et le journal de Johannesburg posait même la question, était-elle une héroïne de la lutte qui aura notamment enduré des souffrances indicibles pendant que son mari était emprisonné, ou bien était-elle un monstre de sang-froid qui plus est corrompu? Lorsque les traîtres présumés à la cause anti-apartheid sont brûlés vifs avec un pneu enflammée passée autour du cou, le fameux neck lacing, elle déclare que les Sud-Africains doivent se libérer avec des boîtes d'allumettes, ce que beaucoup ont interprété à l'époque comme un véritable appel au meurtre. De même, le club de football Mandela United Football Team, qui lui servait en même temps de garde rapprochée aux méthodes particulièrement brutales, fera lui aussi les gros titres de la presse. Après l'accord historique passé par son mari avec les Blancs pour mettre fin à la ségrégation, elle déclarera « Mandela nous a abandonnés ». Plus tard, elle multipliera encore les contradictions. Députée depuis 1994 et réélue à chaque élection, elle brillait par son absence au Parlement et menait grand train tout en prenant régulièrement la défense des plus pauvres. Et voilà comment Winnie Mandela, vénérée aujourd'hui par des millions de Sud-Africains, laisse malgré tout derrière elle un héritage complexe.
Voilà, avec un droit d'inventaire, comme on dit Thomas, direction Israël à présent, où après avoir annoncé un accord avec les Nations Unies, le Premier ministre a préféré hier soir faire volte-face.
Oui, en septembre de l'année dernière, après une visite dans les quartiers de Tel Aviv, où des milliers de migrants s'étaient installés, Benjamin Netanyahou avait déclaré « Nous rendrons le sud de Tel Aviv aux citoyens d'Israël. Nous avons affaire à faire face à des gens qui se sont infiltrés illégalement, qui ne sont pas des réfugiés, et Israël a le droit de protéger ses frontières et d'en tenir éloignés ceux qui s'infiltrent illégalement. Et c'est ainsi que le gouvernement avait donc d'abord prévu de donner le choix aux migrants de partir d'ici à début avril ou d'aller en prison indéfiniment. Sauf que ce projet avait suscité de nombreuses critiques, notamment du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Alors hier, Benjamin Netanyahou s'était félicité d'avoir finalement conclu un accord avec les Nations Unies permettant de transférer une partie des migrants africains vers des pays développés comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie. Seulement voilà, précise The New York Times ce matin, le Premier ministre qui se bat aujourd'hui pour son avenir politique, assombré notamment par de multiples scandales de corruption, n'avait apparemment pas consulté la plupart de ses propres collègues conservateurs du Likoud avant d'annoncer cet accord. Et face à la crainte de perdre le soutien de ses partenaires, eh bien Netanyahou a donc finalement décidé de faire marche arrière, de sorte, conclut le quotidien américain, que si cet accord aurait sans doute permis à Israël de se racheter une bonne conscience et de détourner qui plus est l'attention de la flambée de violence vendredi dernier le long de la frontière avec Gaza, l'effet n'aura été que de courte durée.
Merci Thomas Cluzel, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.